Vous écoutez, on lit pour vous.
Le devoir de mémoire de Michel Jean. Un texte de Michel Lemieux paru dans l'édition Hiver 2024 du magazine Virage. En tant que journaliste, Michel Jean a traversé les frontières pour nous raconter les grands bouleversements de notre époque. Mais par le biais de ses livres, c'est l'histoire d'ici, celle des nations autochtones du Québec qu'il met en lumière pour le monde entier. Après les succès de Koukoum et Tiotiake, Michel Jean vient de nous proposer Kimik, un ouvrage qui se déroule dans le Grand Nord et qui relate la sédentarisation forcée des Inuits, le massacre des chiens et ses conséquences. Désormais traduit dans plusieurs langues, l'écrivain d'origine Innu est devenu une voix littéraire incontournable, exposant la réalité autochtone au pays, mais sans jamais faire la morale. « Moi-même, j'ignorais plein de choses », admet-il. Pour le reporter qui a lorgné l'actualité internationale, écrire aura été un moyen de mieux connaître sa propre culture et de comprendre d'où il vient. Mon père est québécois, ma mère est autochtone. Je fais partie de ceux qui ont grandi à l'extérieur de la communauté à cause de la loi sur les Indiens. Je n'ai pas appris la langue, raconte l'homme de 63 ans. J'ai été élevé par des parents qui ont vécu le racisme. Quand tu es la seule famille autochtone dans Alma, tu te fais montrer du doigt. Ma mère se faisait traiter de sauvage. Être autochtone n'était pas valorisé. Le réflexe a été de passer inaperçu. Mon histoire, c'est celle de toutes les familles autochtones. Une reconnaissance croissante. Si sa carrière d'auteur a démarré lentement, on peut dire de Michel Jean que la reconnaissance dont il jouit est plus que méritée. Initialement, mes livres se vendaient bien, mais sans plus, admet-il. Personne n'avait parlé de Koukoum à sa sortie. Le bouche à oreille a fait en sorte qu'après un an, on avait vendu 5 500 exemplaires. Grâce au prix France-Québec, on en a plus parlé. Conséquemment, il est sur les palmarès des meilleurs vendeurs depuis 2020 et il a remporté le prix du meilleur roman des lecteurs et libraires Point 2023. Ses lecteurs ont voulu découvrir mes autres livres, notamment Atouk, Elle et nous, au sujet de ma grand-mère, et Le vent en parle encore, sur les pensionnats autochtones. Il y a 2 ans, j'ai publié Tiotiake. Je me disais que l'itinérance autochtone n'est pas très sexy, mais nous sommes rendus à 70 000 exemplaires vendus. Le livre vient de paraître en France et en Allemagne. Partager son récit a permis à l'auteur de confirmer l'ouverture de la population québécoise à la question autochtone. Ils découvrent une partie de leur histoire, dit-il. Chaque semaine, je reçois des messages de gens qui me disent « Monsieur Jean, j'ai lu votre livre, j'ai honte. Qu'est-ce que je peux faire ?» Je leur réponds toujours qu'ils n'ont pas à avoir honte, qu'ils n'ont rien fait et que la meilleure chose à faire, c'est ce qu'ils font déjà, lire et se renseigner. Que Koukoum, Le vent en parle encore, et Tiotiake soit maintenant utilisé dans les écoles, donne une autre perspective. L'homme se réjouit aussi de cette plus grande visibilité des nations autochtones dans l'espace public. Je me sens reconnaissant et admiratif qu'on intègre les autochtones. Nous prévoyons faire une série avec Koukoum. Nous allons trouver des acteurs autochtones. On est rendu là. Aujourd'hui, on n'a plus le choix d'agir. Le reste du monde regarde. Laisse-t-il tomber ? Un journaliste chevronné. Enfant, Michel Jean souhaitait déjà devenir journaliste. Il a commencé sa carrière à la radio, d'abord à Sorel, alors qu'il faisait une maîtrise, puis en Abitibi-Témiscamingue. Pour le compte de Radio-Canada, il a ensuite œuvré en Saskatchewan, à Toronto, à Montréal et à Québec. Par la suite, il a été reporter à l'émission Le Point. Lorsque j'étais jeune, je rêvais de couvrir des événements à l'international. Je suis heureux d'avoir pu le faire. J'ai couvert la guerre en Irak, le tsunami au Sri Lanka, la guerre au Liban, le départ d'Aristide en Haïti. J'avais développé une spécialité. Je me rendais dans des endroits où ça brassait. Ça correspondait à ma personnalité. Je voulais couvrir la plus grosse nouvelle possible. J'aimais les défis que ça représentait. Par la force des choses, l'homme a vécu 1001 tribulations qu'il a relatées dans un livre intitulé « Envoyé spécial ». En Haïti, on a tiré au-dessus de nos têtes. Cette fois-là, j'ai eu peur. J'étais convaincu qu'on avait tiré sur mon caméraman. Malgré le danger, il n'y a rien que je ne referais pas. J'ai toujours agi en ayant en tête ma sécurité et celle des gens avec qui je travaillais. Je n'ai jamais été une tête brûlée. À TVA, depuis 2005, Michel a animé l'émission JE pendant 8 ans avant d'occuper un fauteuil de chef d'antenne. Le TVA Midi rassemble tout ce que j'aime en information, l'actualité brûlante, mais avec la possibilité de couvrir sous un autre angle et de mener des entrevues plus longues lorsque nécessaire. À l'âge que j'ai, c'est une émission qui me ressemble. Chaque midi, nous rejoignons près d'un demi-million de personnes. En 37 ans de carrière, je ne me suis jamais laissé prendre au piège de la routine. J'ai toujours continué d'apprendre et de me remettre en question. C'était « Le devoir de mémoire » de Michel Jean. Un texte de Michel Lemieux paru dans l'édition Hiver 2024 du magazine Virage.
Quand le théâtre Denise Pelletier était le Granada. Un texte d'Émilie Côté paru le 19 janvier 2024 dans la presse. Le plus que nous permettaient mes parents était d'aller au cinéma, donc on y allait beaucoup, raconte Rolande Provençal. Madame Provençal est née en 1942 dans ce qu'on appelait le quartier Maisonneuve. Elle garde de précieux souvenirs de ses sorties au cinéma à l'âge de 15 ans, avec l'homme qui allait devenir son mari. À pied de ma demeure, il y avait 5 cinémas, raconte la femme aujourd'hui âgée de 81 ans. Le Maisonneuve, l'Orléans, le Nelson, le Mercier et le Granada. Tous les dimanches, Madame Provençal et son amoureux Gilles fréquentaient le cinéma Mercier. Pour 99 sous, ils pouvaient voir plusieurs films et un vaudeville avec des vedettes comme La Poune, Manda Paran et Claude Blanchard. Ensuite, mon copain venait me reconduire et des fois, mes parents l'invitaient pour souper. De beaux souvenirs. La salle du cinéma Mercier n'existe plus depuis longtemps sur la rue Sainte-Catherine-Est, mais celle du Granada attire toujours les foules quelques coins de rue plus loin. Or, les acteurs se produisent désormais en chair et en os devant le public. Le Granada a fermé dans les années 1970 pour ensuite devenir le théâtre Denise Pelletier. Comme le Rialto et le théâtre Outremont, il fait partie des anciens cinémas de type palace qui ont toujours une vocation artistique. Le théâtre Denise Pelletier souligne son 60e anniversaire cette année, rappelle son directeur de 1995 à 2022, Rémi Brousseau. Une salle qui comptait pas moins de 1650 places à l'époque du Granada et dont l'architecte Emmanuel Doucet a signé les plans. Emmanuel Briffa, encore. Comme d'autres anciens cinémas, l'Empress, le Château, le théâtre Snowden, le théâtre Denise Pelletier doit son somptueux décor intérieur à Emmanuel Briffa. Comme le théâtre Granada de Sherbrooke, qui existe toujours en tant que salle de spectacle, l'ancien Granada de la rue Sainte-Catherine recréait l'ambiance d'une cour espagnole avec des blasons, de faux balcons, des feuilles dorées, etc. Gilles Pelletier a été le défenseur d'Emmanuel Briffa. Il le connaissait. Il a dit aux architectes « Tout ce qu'on peut conserver, on va le faire », raconte Rémi Brousseau. Quand la nouvelle compagnie théâtrale, fondée par Gilles Pelletier, Françoise Graton et Georges Groux, a acquis l'ancien Granada en 1976, d'importants travaux ont été entrepris. Le balcon a été retiré, les régies ajoutées et la scène agrandie, de sorte que la salle soit ramenée à 900 places. On a aussi fait construire l'annexe, pouvant accueillir une salle de répétition, un espace pour le dégagement de scène, mais surtout la salle Fred Barry. C'est la première boîte noire à Montréal, soit une salle modulable à géométrie variable, souligne Stéphanie Lorrain, qui a succédé en 2022 à Rémi Brousseau à la direction générale du théâtre Denise Pelletier. À l'époque du Granada, les gens entraient dans la salle au rez-de-chaussée par ce qu'on appelait le vomitoire, où se trouve aujourd'hui le bar. Maintenant, on accède à son siège à l'étage, côté cour ou côté jardin, dans ce qu'on surnomme le pénitent. Puisque c'est là qu'allaient les troubles-fêtes et les retardataires avant de trouver leur place. C'est aussi là que se trouvait l'ancienne cabine de projection dotée d'une ouverture au plafond pour évacuer la fumée toxique émanant des projecteurs. En 2008, d'autres importants travaux de rénovation ont modernisé les installations du Théâtre Denis Pelletier, en plus de surélever le parterre de la salle principale et de retrancher une centaine de places. La firme d'architecture Saya Barbarese, Topuzanov, avait le mandat de préserver l'héritage patrimonial des lieux, ce qui lui a valu le prix du jury au gala de l'Ordre des architectes dans la catégorie « Conservation et restauration ». Perpétuer l'histoire. En mettant en valeur l'histoire du 4353 rue Sainte-Catherine-Est, le Théâtre Denis Pelletier joue un rôle de gardien, mais aussi de passeur auprès de son jeune public. On vous invite par ailleurs à visionner la vidéo qui permet une visite virtuelle de chaque pièce, dont l'impressionnant costumier. Comme l'était le Granada, le Théâtre Denis Pelletier est un lieu de beauté, de rêve et de liberté pour les gens de l'Est de Montréal, souligne Stéphanie Laurent. Nous sommes l'un des théâtres les plus accessibles du point de vue des tarifs, ajoute-t-elle en citant l'initiative TDP, votre théâtre de quartier, qui permet à des gens de s'initier gratuitement au théâtre et de prendre part à une marche historique dans le quartier. Conclusion. Il n'y a peut-être plus 5 cinémas dans l'ancien quartier Maisonneuve, comme nous le racontait Mme Provençal, mais la mémoire du Granada demeure vivante et accessible. C'était « Quand le théâtre Denis Pelletier était le Granada », un texte d'Émilie Côté paru le 19 janvier 2024 dans La Presse.
Exister sans se définir. Un texte de Maïka Sundarji paru le 4 janvier 2024 dans Le Devoir. Ça vient d'où, ça, Sundarji? Me demandait l'autre jour un sympathique serveur d'un bar de Villeray quand il a vu mon nom sur ma carte de crédit. J'ai l'habitude. Mais je ne sais toujours pas quoi répondre. Je suis né à Sherbrooke, ma mère vient de Stoke et mon père vient de Betroka, un petit village au sud de la capitale du Madagascar. Il est arrivé au Québec à 17 ans pour suivre son neveu Nazir et ses autres frères d'adoption. Mon arrière-grand-père, Gova, a immigré de la province indienne du Gujarat vers la grande île africaine en 1906 avec ses enfants pour éviter la famine et les épidémies courantes en Inde en ce temps-là. Donc, ma famille est d'un côté des Demers, roi Bourassa, et de l'autre des Sundarji, Ali Bey, Badaroudine. Je suis québécoise francophone et je passe pour blanche la plupart du temps. Sauf quand on voit mon nom, que j'ai passé un été particulièrement ensoleillé ou que je parle de ma famille musulmane. Je suis d'héritage multiracial ou, comme on dit en anglais, « mixed race ». Il n'y a pas de traduction précise ou de terme politiquement correct en français, donc disons que je suis un mix complexe de legs et de parcours. Il y a 30 ans cette année, l'intellectuelle Maria Primitiva Paz Root écrivait un document hautement symbolique. La Charte des droits des personnes d'héritage mixte, Bill of Rights for People of Mixed Heritage. Grâce à son travail, depuis l'an 2000, le recensement des États-Unis permet aux répondants de sélectionner plus d'une case d'identité culturelle pour s'identifier. C'est aussi possible au Canada, si la majorité des gens sont bien confortablement installés dans une case. Beaucoup, comme moi, trouvent la question « qui es-tu ?» problématique. Ni comme mon père, ni comme ma mère. J'ai rencontré Magali Lefebvre-Jean dans une séance d'escalade et on s'est tout de suite reconnus. Elle est noire, elle a des dreads, elle fait du savon et elle possède des dizaines de plantes. On ne se ressemble pas. Mais ça a cliqué tout de suite parce qu'on a vite compris qu'une chose nous reliait, l'expérience d'avoir des origines mixtes. C'est une expérience à la fois bien précise, avoir des origines variées, mais très différentes en fonction du mix qui nous caractérise. Les personnes biraciales, multiraciales ou mixtes peuvent vivre du racisme quotidiennement, ou pas, peuvent venir de familles immigrantes, ou pas, de pays du Sud global, ou pas, et elles peuvent se questionner sur leur identité, ou pas. Magali et moi, on n'a jamais été accompagné par quelqu'un qui nous aurait dit « Écoute, c'est parce que tu es mixte que tu te sens comme ça. » Ou « Écoute, cette personne te pose cette question parce qu'elle veut te mettre dans une case, même si toi, tu coches plusieurs cases. » Cet automne, elle a publié un livre que j'attendais avec impatience. Comme moi, elle est entre deux chaises, entre deux mondes, d'où le titre de son livre « Ni comme ma mère, ni comme mon père ». Chronique d'une femme biraciale farouche parue aux éditions Hurlante Éditrice, est à ma connaissance le premier livre sur la biracialité en français et définitivement le premier ancré au Québec. Son expérience d'identité frontalière reflète la mienne, mais en diffère aussi beaucoup. Elle a un nom de blanche, mais n'en a pas l'allure. Moi, j'ai un nom d'indienne, mais j'ai l'air de venir de Saint-François-du-Lac. De père haïtien et de mère blanche, elle est noire pour qui la croise, donc elle a vécu beaucoup plus de ce qu'elle appelle des micro-agressions que moi. Pour démystifier les identités mixtes, elle a longuement parlé à des femmes biraciales francophones comme elle pour rendre compte de leurs expériences quotidiennes et, par le fait même, mieux se comprendre elle-même. Elle parle de racisme systémique de manière sensée et sensible. Elle écrit comme moi pour lutter contre les nouvelles frontières des identités politiques et sociales qui se créent de plus en plus un peu partout dans le monde. Au-delà des divisions et des frontières qui se créent dans notre belle province et ailleurs, Magali Lefebvre-Jean tente de créer des ponts pour qu'on se parle. J'ai mieux compris ma propre identité, mais j'ai aussi mieux compris le Québec par son livre. Ça aurait été un livre essentiel pour la moi adolescente qui se questionnait et pour la moi adulte qui se questionne encore un peu. Essentiel pour moi, pour toutes les personnes à l'héritage mixte et pour toutes les personnes qui veulent nous comprendre un peu mieux. Au final, Magali et moi, on est toutes les deux biraciales, mais on est aussi toutes les deux très québécoises. C'était « Exister sans se définir », un texte de Maïka Sundarji, paru le 4 janvier 2024 dans Le Devoir.
L'épicerie coûtera encore plus cher, un texte de Frédéric Charret, paru dans le magazine Virage de janvier 2024. Faire l'épicerie demeurera vraisemblablement une source d'inquiétude majeure pour bon nombre de ménages au pays en raison de la hausse du prix des aliments, prédit un récent rapport universitaire. Et les personnes aînées ne seront pas épargnées. Par exemple, un couple composé d'un homme et d'une femme de 51 à 70 ans doit s'attendre à payer 7 711,63 $ pour s'alimenter sainement l'année prochaine, soit une hausse de 332,25 $ relativement à ce qui a été observé en 2023, indique le rapport sur les prix alimentaires au Canada 2024. Les hommes et les femmes de 70 ans et plus devront débourser respectivement 3 894,05 $ et 3 504,99 $ au courant des 12 prochains mois. À travers le pays, les prix des aliments augmenteront en moyenne de 2,5 à 4,5 %. Mais les produits ne sont pas tous égaux devant la caisse enregistreuse. La viande, les légumes et les produits de boulangerie augmenteront le plus, avec des prix à la hausse de 5 à 7 %, lit-on dans la 14e édition de ce rapport annuel, rédigé par des équipes de l'Université Dalhousie, de l'Université de Guelph, de l'Université de la Saskatchewan et de l'Université de la Colombie-Britannique. Les détaillants vont vous courtiser. La hausse globale anticipée du prix des aliments sera tout de même moins prononcée que celle observée l'année dernière, plus 5,9 %. Cela est source d'optimisme pour Sylvain Charlebois, chef de projet et professeur à l'Université Dalhousie. Le spécialiste de l'industrie agroalimentaire anticipe d'ailleurs que le champ de bataille en 2024 sera la loyauté. Pour regagner la fidélité de la clientèle qui butine d'une épicerie à une autre à la recherche d'aubaines, les grandes bannières vont offrir plus de rabais et bonifier leur programme de récompense. Une certaine guerre de prix entre les détaillants est donc à prévoir, notamment en ce qui concerne les denrées non périssables. Malgré cela, l'inflation alimentaire continuera à exercer une pression sur le portefeuille, déjà mise à mal par l'augmentation des coûts du logement et de l'énergie, entre autres. Cette hausse anticipée des prix alimentaires peut être principalement attribuée à l'augmentation du coût des intrants, à l'accroissement des frais de transport et aux effets néfastes du changement climatique sur le rendement des cultures. Rapport sur les prix alimentaires au Canada 2024. Moins de dépenses. Malgré la hausse bien réelle des prix, la population canadienne a dépensé moins en 2023 que ce qui avait été prédit, soit une différence de 328,10 $ pour un couple formé d'un homme et d'une femme de 51 à 70 ans. C'est le coût du logement qui a étouffé beaucoup de ménages, explique Sylvain Charlebois. Il y a donc carrément eu un retrait à l'épicerie. Les gens ont recalibré leur budget à la baisse et c'est à l'épicerie qu'ils ont pu épargner. C'est là qu'on voit que l'année a été difficile pour beaucoup de personnes. Cette diminution est surprenante, mais aussi inquiétante, puisqu'elle indique que les ménages réduisent leurs dépenses d'épicerie, soit en limitant la quantité ou la qualité des aliments qu'ils achètent, soit en les remplaçant par des produits substituts moins coûteux. Il est aussi probable que les gens changent certaines habitudes de consommation pour déjouer l'inflation, notamment en faisant leurs courses dans des magasins au rabais et en réduisant la quantité d'aliments gaspillés. C'est la fidélité qui a pris le bord en 2023. Les gens achètent d'autres marques, dans d'autres magasins, explique Sylvain Charlebois. C'est un bouleversement qui s'est produit aussi rapidement que la hausse des taux d'intérêt. Le rapport souligne aussi que les ménages sous pression financière ont de plus en plus recours aux banques alimentaires, ce qui leur permet d'acquérir certaines denrées sans pour autant augmenter leurs dépenses. En effet, les banques alimentaires du Québec ont récemment dévoilé que le réseau aide 872 000 personnes chaque mois, soit une augmentation de 73 % par rapport à 2019. Il y a aussi eu une augmentation de 98 % des services de dépannage alimentaire en 4 ans, passant de 345 000 à 682 000 paniers remis mensuellement. Au pays, environ 8 % des personnes qui font appel à des services de dépannage alimentaire ont 65 ans et plus. C'était « L'épicerie coûtera encore plus cher », un texte de Frédéric Charret, paru dans le magazine Virage de janvier 2024.
Pouvez-vous ne pas parler des affaires difficiles? Un texte de Sandrine Gierula et Jacob Pirot, paru le 4 janvier 2024 dans Le Devoir. Les auteurs sont membres de la coalition étudiante pour un virage environnemental et social. Ma petite cousine de 10 ans me demande c'est quoi un Noël blanc. Elle n'en a pas vraiment connu et elle n'en connaîtra sans doute pas. Des bourgeons sont en train d'éclore en plein hiver. L'eau d'érable commence déjà à couler. Des animaux sortent de l'hibernation en pensant que c'est le printemps. Mais selon mon oncle, les prochaines vagues d'inondations, d'éboulements de terrain, de feux de forêt, de canicules, de tornades, d'orages violents, de sécheresses, ne sont pas des signes que nous sommes sur le point de basculer. De toute manière, les technologies vont nous sauver, non? On le sait bien, plus il y a de Tesla, moins il y a de gaz à effet de serre, mais plus il y a de nouvelles mines, moins il y a d'enfants qui grandissent à Rouyn-Noranda. On a fait le décompte du nouvel an en faisant sauter le champagne pendant qu'on décompte les enfants qui sautent à Gaza. Israël et des compagnies pétrolières se seraient déjà répartis le territoire palestinien, prêts à faire exploser les peuples et les sols pour du cash. Et comme tu ne peux pas extraire du pétrole d'une ville habitée, il y aurait d'importants gisements gaziers au large de Gaza. Apparemment, ça justifie cette hécatombe. Il ne faut pas se leurrer. Aucun pays n'appelle à vraiment plus qu'un cessez-le-feu symbolique. Exploiter des peuples pour en privatiser les terres et en extraire des ressources, c'est la routine politique des superpuissances. Le capitalisme est sauvage et il fait la guerre aux vivants. Face aux oppressions, il faut se soulever. Mais comment peut-on s'organiser si le premier combat que l'on mène est celui de survivre jusqu'à notre prochaine paye? C'est rendu que pour arrondir les fins de mois, certains doivent voler à l'épicerie. Ça, c'est juste à cause de l'inflation, nous dit-on, pas par la faute des grandes chaînes alimentaires qui enregistrent des profits records. La dystopie n'est pas dans le plus récent film Netflix que toute ta famille te dit d'écouter, mais drette dans ta face. C'est rendu que des gardes de sécurité protègent les caisses libre-service dans des fruiteries de quartier. Désolé, se nourrir est un droit réservé aux personnes qui travaillent fort. Ou du moins, c'est l'excuse que tu entends dans ton souper de famille. On perd notre droit à la cession de bail par la main d'une ministre de l'Habitation qui se range du côté de ses amis propriétaires. Aucun conflit d'intérêts ici, évidemment. L'embourgeoisement fait construire des condos de luxe pendant qu'une file de gens attendent pour visiter un 3,5 à 1 500 $ plein de moisissures. Désolé, ce loger est un droit réservé aux personnes qui travaillent fort. C'est plus facile de juger l'individu que le système car ça ne demande pas de te responsabiliser et de te mobiliser pour s'en sortir ensemble. On peut se mentir comme on veut, décider consciemment de vivre dans le déni, fermer Instagram quand les vidéos d'hécatombe sont trop difficiles à regarder, éviter du regard une personne en situation d'itinérance sur le coin de la rue, mais rien n'arrêtera cette machine destructrice. Pendant que l'intelligence artificielle fait de l'art, on doit travailler pour exister. Désolé, le temps libre est un droit réservé aux robots. Faut arrêter d'attendre que Jésus vienne nous sauver. De toute manière, il se ferait massacrer en Terre Sainte. Mais les fêtes sont terminées, alors, s'il vous plaît, pouvez-vous, pour une fois, ne pas parler des affaires difficiles? Non, on ne le peut pas. Cette profonde dissonance cache un immobilisme dangereux. C'est, surtout, une pente fatale vers une apathie meurtrière. Toute exploitation est la représentation de notre déconnexion intime au monde, de notre incapacité évidente à l'habiter ensemble. Nos âmes s'effritent un peu plus chaque fois qu'un peuple est assassiné, chaque fois qu'un quartier s'embourgeoise, chaque fois qu'un bourgeon éclot trop tôt. Cette déconnexion n'est pas humaine. La collectivité est la seule réponse valable à toutes ces guerres qui attaquent jusqu'à notre sensibilité. Il n'est pas trop tard pour nous en affranchir. C'était « Pouvez-vous ne pas parler des affaires difficiles ?» un texte de Sandrine Gierula et Jacob Pirou, paru le 4 janvier 2024 dans Le Devoir.